Je ne sais pas si vous aviez perçu, mais au cours de cette année scolaire, il y a un thème qui nous a accompagnés sur plusieurs messages tout au long de cette année scolaire. Il avait été entamé par Thibaut quand il nous avait parlé de l'amour de l'étranger. Vous aurez presque dire que c'était un message prophétique à la fin du mois d'août dernier. Et puis, au cours de cette année scolaire, j'en ai mis quelques-uns, peut-être que j'en ai oublié, n'ayant pas forcément été là tous les dimanches, nous avons eu plusieurs fois l'occasion de regarder des sujets concernant l'amour. Les deux plus grands commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, l'amour quand c'est difficile, aimer ses ennemis, amour et liberté, amour et spiritualité. Nous avions aussi vu il y a 3 semaines l'amour conjugal et il y a 15 jours avec Philippe, amour et philanthropie. Et alors, pour terminer un petit peu ce cycle, j'avais pensé à ce thème de se savoir aimer vraiment. Alors, se savoir aimer vraiment par Dieu. Parce que nous savons aimer. Moi, je me sais aimer par Anne, par mes enfants, par mes parents, etc. Mais c'est un amour humain qui, forcément, est fluctuant. Et puis, parfois, il arrive que dans un couple, il n'y ait plus d'amour, que l'amour disparaisse. Tandis qu'il y a quelque chose qui ne passera jamais, c'est l'amour de Dieu. Se savoir aimer vraiment. Vous savez, quand les enfants sont petits, ils prennent parfois des marguerites, je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Comment on se sait aimer par Dieu? À quel point on se sait aimer par Dieu? Quand c'est le temps de chant des enfants, ici, il y a un chant qu'on chante très souvent. L'amour de Dieu est grand, comme ça. Mais ça veut dire quoi, comme ça? C'est des grands comme ça. On parle aussi de l'amour éternel, insondable de Dieu, de Jésus-Christ. C'est très présent dans nos chants. Et alors, je vous invite à réfléchir avec moi à ce qu'est vraiment l'amour de Dieu. Et pour cela, je vais vous proposer ce que je trouve personnellement peut-être les deux textes les plus incroyables de la Bible. Le premier est celui-ci, « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qui dit cela? Qui dit cela? Qui dit que nous sommes aimés comme Dieu le Père aime Dieu le Fils? C'est Dieu le Fils lui-même qui dit cela. Ce Fils de Dieu qui est la vérité, et c'est finalement le mieux placé pour juger si l'amour dont le Père aime les siens est égal à l'amour dont il est lui-même aimé. Et à qui Jésus dit-il cela? Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, dans cette prière que Jésus fait monter au Père juste avant d'aller à Gethsémané. Il dit ça à son Père lui-même. Et il dit ça sachant et observant les plans éternels de Dieu qui passaient par la révélation de cet amour. Et puis, quand Jésus dit-il cela? Jésus dit cela quelques heures, on aurait presque dire quelques minutes, avant d'aller à la croix, avant de connaître l'épreuve la plus grande qu'un homme ne puisse jamais connaître. Et cette épreuve n'entame en rien la sérénité du Fils quant à l'amour du Père. Et c'est pour cela que Jésus peut dire « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et alors, nous avons besoin de croire cela. Combien de fois dans l'Évangile, Jésus dit « Croyez-moi quand je vous dis ceci, croyez-moi quand je vous dis cela. » Et est-ce que, au fond de nous, au fond de notre cœur, nous croyons vraiment que nous sommes aimés de Dieu, du même amour. Ici, j'ai mis une flèche, peut-être à l'écran, ça apparaît pas, mais c'est la même longueur que celle entre le Père et le Fils. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est mon premier texte. Et je dirais un peu le second lui est semblable, pour faire une paraphrase, puisque nous avons, quelques minutes avant, Jésus qui a dit à ses disciples, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimer. Et donc, il n'y a pas de différence de nature entre l'amour de Dieu le Père pour nous, l'amour de Dieu le Fils pour nous, et l'amour dont il nous aime. Il n'y a pas de différence. Et c'est dans ce contexte de ce verset de Jean 15, verset 9, nous y reviendrons, que Jésus appelle ses disciples, ses amis. Il leur dit, mais je ne vous parle pas comme à des esclaves, je vous parle avec des amis. Et donc cet amour nous met quelque part au niveau du Fils. Parce que quand on est ami avec quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas pour le regarder de façon très condescendante ou d'introduire une distance entre cette personne et puis moi-même. Si je le considère comme mon ami, ça veut dire que je me place à son niveau. Et c'est bien ce que Jésus ici fait vis-à-vis de nous. Et alors, l'amour dont lui nous aime, il l'égale comme avec l'amour dont le Père aime le Fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'amour dont le Père aime le Fils ? Il est important de comprendre que, comme le dit Jean dans son épître, l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et que, quand Jean s'efforce quelque part de nous donner une définition de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a trois textes qui sont très importants. Ce que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 4, « Dieu est esprit ». Et puis, sous la plume de l'apôtre Jean, dans sa première lettre, « Dieu est lumière et Dieu est amour ». Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est amour. Mais vous aurez remarqué que Jean répète « Dieu est amour ». 1 Jean 4, verset 8, 1 Jean 4, verset 16. Et quelque part, on a pu dire, et je trouve que la pensée est juste, que l'amour est premier en Dieu. L'amour est premier en Dieu. Et donc, Dieu est amour, et le fait que Dieu soit amour implique quelque part la pluralité. Pourquoi ? Parce que si Dieu n'était pas trois personnes en un seul Dieu, eh bien, on ne pourrait pas bien comprendre l'amour comme la Bible nous le décrit. De sorte qu'il y a un lien très étroit entre la doctrine de la Trinité et la doctrine de l'amour de Dieu. Parce que selon la Bible, l'amour, ce n'est pas l'amour de soi-même. C'est l'amour tel que la Bible nous le montre de la première à la dernière page. C'est quelque chose qui établit une relation et qui va vers l'autre. Et donc, si Dieu est amour, il ne peut pas être amour tout seul, si je puis dire. Et donc, il est nécessaire qu'existe dans l'unique divinité ces personnes entre lesquelles il y a cette relation d'amour. L'amour implique donc cette pluralité en Dieu. Et donc, il y a éternellement, entre le Père et le Fils, et la force de cet amour, disait C.S. Lewis, c'est le Saint-Esprit, eh bien, entre le Père et le Fils, il y a éternellement cette relation d'amour qui existe. Et ensuite, cette relation d'amour va pouvoir se développer vis-à-vis de ce que Dieu va créer avec sa création. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous sommes attachés à la fois au fait de dire que Dieu est un Dieu unique en trois personnes et à la fois que Dieu est amour. Parce que les autres religions, même les religions monothéistes, quelque part, elles loupent le point. L'islam va nous dire que Allah est miséricordieux, mais il ne va pas nous dire qu'il est amour. Pourquoi ? Parce que si Dieu est une seule personne, eh bien, pour qu'il y ait amour, il est nécessaire qu'il y ait d'autres êtres qui soient créés, et donc que la puissance crée les autres êtres avant de pouvoir les aimer. Je suis désolé, hein, je fais un peu de philo là peut-être, hein, mais essayez de me suivre un petit peu quand même. Et donc, tandis que si l'amour est premier en Dieu, eh bien, dans ces cas-là, il est nécessaire qu'il existe au sein même de ce qu'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et des relations d'amour entre eux. Alors, bien entendu, je suis bien conscient que quand je parle de l'amour intra-trinitaire entre le Père et le Fils, quelque part, on s'aventure dans des eaux tellement profondes qu'on risque de s'y noyer tout de suite, et qu'on n'y comprend pas grand-chose, parce que quelque part, moi je suis une créature finie, comment je vous parlais de l'amour entre deux personnes infinies et qui existent de toute éternité, bien avant que moi je sois arrivé sur la terre. Et ce n'est que par la révélation que nous donne Dieu lui-même dans sa parole que nous pouvons évoquer quelques petits points de cela. Et c'est vrai que dans ce sens, l'amour entre le Père et le Fils, eh bien, il est quelque part unique, puisque c'est l'amour entre deux personnes infinies qui constitue ce Dieu que nous avons, au fond, toujours du mal à vraiment se percevoir, parce que Dieu est autre, et nous, nous sommes finis sur la terre, même s'il se fait connaître à nous. Donc l'amour entre le Père et le Fils, quelque part, il est spécifique. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que Jésus, dans ces deux versets incroyables, nous dise « Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé, le Père vous aime. » Donc, ce comme Jésus ne l'assortit pas de restrictions, de nuances, etc. Mais néanmoins, ce que nous pouvons essayer d'en percevoir quelque chose, nous ne pouvons le percevoir que sur l'approche de la révélation qu'il nous a donnée. Et donc là, je vous ai mis sept références qui sont sept textes de l'amour du Père pour le Fils. Parce que quand nous lisons l'Évangile selon Jean, que nous lisons tout au long de cet évangile, nous trouvons à sept reprises, et ce n'est sans doute pas un hasard, que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Ou « tu m'as aimé », ce qui est une façon directe pour Jésus de parler de l'amour que le Père a pour lui. Et donc, ce que je vous propose ensuite comme point central de ce message, c'est de détailler un petit peu ces sept points, de regarder qu'est-ce qu'ils nous disent de la façon dont le Père aime le Fils. Et cela, ça va nous aider à comprendre la façon dont Dieu nous aime. Puisque, rappelez-vous mon fameux graphique, si je comprends un peu mieux cette flèche-là, au travers de ces sept textes, eh bien je comprendrai un petit peu mieux aussi cette flèche-là, puisque il y a équivalence, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et donc nous sommes légitimés, me semble-t-il, dans l'approche que je vous propose, à détailler ce que l'évangéliste, et Jésus lui-même surtout, nous dit de l'amour du Père pour le Fils, pour comprendre un petit peu comment Dieu nous aime. Alors je vous propose de les prendre, mais pas forcément dans l'ordre du texte biblique. Et je commencerai par un texte que nous trouvons dans cette prière que Jésus fait monter à son Père en Jean 17 et qui nous parle de cet amour inconditionnel. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ce texte nous parle de cet amour du Père pour le Fils avant la création du monde. Avant qu'il y ait donc d'autres objets, si je puis dire, envers lesquels Dieu peut déverser son amour, c'est-à-dire nous, hein, Dieu a tant aimé le monde, donc c'est nous, eh bien, il existe cet amour du Père pour le Fils avant la création du monde. Avant la création du monde, et Jésus dit cela, alors qu'il est incarné sur la terre, qu'il va accomplir l'œuvre. Et nous savons que, de façon proleptique, la prière de Jean 17 se place comme si l'œuvre était déjà achevée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais quand Jésus dit cela, il dit cela pour indiquer que, finalement, l'amour que le Père avait pour lui était préalable au fait que le Fils allait obéir au Père en donnant sa vie sur la croix. Alors nous allons voir dans un instant que c'est important, mais c'est avant son incarnation. C'est indépendamment de son incarnation et de tout ce qu'il allait réaliser après. Et nous avons dans ce chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, dans cette prière, Jésus qui demande que les siens contemplent sa gloire, et au verset 5, il va dire « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit créé. » Donc il y avait cette gloire que le Père avait donnée au Fils avant que le monde soit créé. Et donc ça nous parle de cet amour inconditionnel. C'est pas comme si l'amour du Père pour le Fils était conditionné au fait que le Fils allait bien obéir. Non, il est absolu, il est éternel. Et c'est pareil pour nous. L'amour du Père pour toi, Ludovic, il est inconditionnel. Il est de toute éternité. Il est indépendant de ce que tu feras. C'est un amour qui est inconditionnel. Et nous avons cette même pensée qui nous est donnée dans l'Évangile selon... Non, pardon, dans l'Épître aux Éphésiens. Je lis dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. » Ah, de nouveau la même expression. « Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Et dans son amour, suivant les traductions, on ne sait pas s'il faut le rapporter au verset 4 ou au verset 5. Donc je continue. « Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Encore cette idée de gloire. Donc je ne vais pas détailler ce texte de Éphésiens 1, mais juste pour montrer que Paul reprend cette idée, que l'amour dont nous sommes aimés par Dieu, dans son amour, eh bien c'est avant la fondation du monde, avant même que nos parents pensent à peut-être avoir un enfant, que Dieu nous a aimés. Et donc, nous sommes aimés inconditionnellement. Voilà, inconditionnellement. Et ça, c'est la première caractéristique, me semble-t-il, de l'amour de Dieu, l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Père et du Fils pour nous. Aimer inconditionnellement. Cet amour, il conduit à une union. Et juste avant le texte que nous venons de lire, toujours dans cette prière de Jean 17, Jésus dit à son Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le verset que je lisais. Et donc, il y a cette unité qui est créée par l'amour entre le Père et le Fils. Et quand on aime beaucoup quelqu'un, ça crée des liens, c'est ce qu'on dit, hein, on est lié par les liens de l'amour. Et donc il y a ce lien très fort entre le Père et le Fils qui partage la même nature d'amour avec ces sept textes dont j'ai parlé. Et puis il y a aussi un texte dans l'autre sens, la flèche entre le Fils et le Père, c'est Jean 14, verset 31, « Afin que le monde connaisse que j'aime le Père, ainsi je fais. » Mais Jésus parle quand même moins de son amour à lui pour le Père que l'amour du Père pour lui. C'est normal, hein, parce qu'il démontre son amour pour le Père parce qu'il dit ce qu'il fait, mais il parle, il est là avant tout pour révéler cet amour du Père. Et donc il y a cette unité entre le Père et le Fils, et cette unité dans laquelle nous sommes intégrés. Et ça, c'est très intéressant, vous voyez, nous sommes un, et je veux qu'eux aussi soient un, et moi en eux et toi en moi. Donc il y a cette espèce de transitivité entre l'unité entre le Père et le Fils qui est dans les croyants, si je reprends là mon schéma, et donc par transitivité, si vous vous souvenez un peu des maths, eh bien, donc, par transitivité, il y a cette unité entre le Père et le Fils, et nous. Mais cette unité, elle passe par le Fils, vous remarquerez dans ce texte ici. « Moi en eux et toi en moi ». Pourquoi ? Parce qu'il était nécessaire que Jésus soit à la fois Dieu et homme pour faire ce pont, justement, pour que cette unité qui existait en Dieu indépendamment de nous, dans la divinité, et puis notre humanité, soit reliée par celui qui, à la fois, prend du côté de la divinité et prend du côté de notre humanité, Jésus, le Fils de Dieu. Et donc, par sa nature et par son œuvre, Jésus, ce seul chemin qui nous mène à Dieu, nous introduit dans cette unité de l'amour, dans cette union de l'amour. Le fait qu'on est unis avec Dieu le Père. Troisième aspect de l'amour, nous le trouvons dans ce verset du chapitre 10, verset 17, où Jésus dit à ses disciples, c'est le développement sur le bon berger qu'il fait dans ce chapitre 10, et il dit, le Père même, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Alors là, on peut dire, et on touche un peu un os, parce que tu m'as parlé, Joël, tu as évoqué l'amour inconditionnel avant toute éternité du Père pour le Fils, mais là, il semble que l'amour du Père pour le Fils soit conditionné au fait qu'il donne sa vie pour la reprendre ensuite. Alors, est-ce que l'amour du Père pour le Fils est donc l'amour du Père pour nous. Est-ce qu'il est inconditionnel ou il est conditionnel? Nous avons commencé par cet aspect inconditionnel parce que je pense que c'est important. Mais cet amour inconditionnel du Père pour le Fils, il est lié à l'obéissance aussi inconditionnelle du Fils au Père, à sa dépendance totale de lui qui culmine dans l'acte sublime d'obéissance qu'il attend. Ici Don Carson. Et donc, le fait de se savoir aimer inconditionnellement fait pour le Fils qu'il s'inscrit dans cette pensée du Père qu'il est venu accomplir sur la terre et dans cette dépendance de lui. Alors, bien entendu, qui c'est qui a donné sa vie pour la reprendre? Seul le Fils. Et donc, si maintenant nous transposons à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons en tirer de cela? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Cet amour reconnaissance du Père pour le Fils, parce que le Fils a obéi pleinement à ce que le Père lui avait demandé de faire, ça c'est unique, puisque l'œuvre du Fils est unique. Mais de notre côté aussi, eh bien, à quoi nous sommes appelés? Jésus a donné sa vie pour la reprendre ensuite. Et Jésus nous a dit, mais vous savez, si quelqu'un veut perdre sa vie sur la terre, il n'a qu'à la garder. Par contre, s'il la donne, eh bien, il va la retrouver. Donc, quelque part, à notre petit niveau, bien entendu très différent et d'une nature très différente de cet amour que le Fils a montré pour son Père en se donnant à la croix, eh bien, nous aussi, quand nous donnons notre vie pour nos frères et sœurs, eh bien, nous retrouvons notre vie. Et vous voyez à quel point c'est une motivation pour nous, parce qu'on pourrait dire, ouais, donner sa vie pour ses frères... Celui qui perdra sa vie la retrouvera, etc. Moi, je n'ai pas envie de perdre ma vie, et puis qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, c'est une motivation pour nous, comme cela a été pour le Fils, que d'avoir, de ce fait, une perception plus immédiate et plus forte de l'amour de Dieu. C'est facile, peut-être, de trouver une illustration pour les... Dans le cercle humain, nous aimons nos enfants inconditionnellement, vous êtes d'accord? Mais c'était la fête des pères dimanche dernier. Alors, je n'étais pas avec mes filles parce que nous étions en Suisse. Je reçois un message de chacune d'elles qui me fait chaud au cœur parce que cet amour est exprimé de façon très, très concrète. Alors, je ne vais pas dire que du coup, je vais... plus ou moins aimé, mais en tout cas, toujours est-il que de recevoir ces messages fait surgir dans mon cœur de papa un désir d'amour encore plus fort. Et ça, c'est normal. Et quelque part, c'est ce qu'on peut dire avec tout le respect que nous devons, que Jésus exprime ici. Que le Père aime inconditionnellement le Fils, mais quand le Fils démontre pour le Père un amour incroyable en ce qu'il accepte de donner sa vie pour accomplir les plans du Père, eh bien, il a une perception plus directe de l'amour de Dieu, et ça a été et c'est pareil pour nous. Et donc, comment nous pouvons être motivés, finalement, pour donner notre vie, pour laisser notre vie? Eh bien, parce que nous savons que, comme Jésus l'a expérimenté lui-même, eh bien, cela nous permettra de rentrer dans une perception encore plus forte de l'amour de Dieu. Le texte suivant, nous le trouvons dans toujours le même évangile, hein, les sept textes sont dans Jean. Nous le trouvons au chapitre 15, versets 9 à 11. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Nous l'avons cité tout à l'heure, c'est un de mes deux versets incroyables. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que dans l'Évangile selon Jean, nous avons les affirmations les plus absolues sur la divinité de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Et puis, plein de mentions aussi où Jésus dit « Mais le Père est plus grand que moi », où nous voyons son humanité fatiguée à Sicare, où nous voyons comme ici il dit « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Alors ça peut parfois un peu nous troubler. Et c'est vrai que cet évangile selon Jean, nous n'arriverons jamais complètement à sonder ce qu'il nous révèle de l'unique personne de Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et à la fois homme. Mais la grandeur de Jésus, finalement, est rappelée, mais aussi l'obéissance de Jésus. Et nous, nous avons de la peine à concilier les deux. Parce que pour nous, quand on obéit, on n'est pas grand. Vous êtes d'accord avec moi? Les grands, c'est ceux qui donnent les ordres, ce n'est pas ceux qui obéissent. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que nous présente l'Évangile selon Jean. Puisqu'ici, comme le Père m'a aimé, et comment Jésus a-t-il incarné cet amour du Père pour lui? Eh bien, en gardant les commandements de son Père pour demeurer dans son amour. La proximité du Père et du Fils incarné sur la terre, s'alimentait de cette obéissance du Fils pour son Père. Et parce que Jésus se savait aimé inconditionnellement de son Père, c'est pour cela qu'il dit les paroles que le Père lui donne, qu'il fait les actes que le Père lui donne de faire, etc. Et vous remarquerez que Jésus n'était pas frustré de s'inscrire ainsi dans l'obéissance vis-à-vis du Père, puisqu'il dit « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous », cette joie que Jésus avait. Vous rappelez un moment peut-être difficile où Jésus était rejeté, Évangile selon Matthieu chapitre 11, eh bien, que dit Jésus ? En ce temps-là, Jésus se réjouit en esprit et dit « Père, c'est ce que tu as trouvé bon à tes yeux. » Incroyable parole. Et donc, il en est de même pour nous. Nous avons, depuis la chute, j'allais dire, cette idée qu'il faudrait que nous soyons comme Dieu. Ce serait quand même tellement mieux que nous soyons notre petit Dieu autonome. Eh bien, Jésus, par ce texte-là, nous dit « c'est pas la bonne façon de voir les choses du tout. Au contraire, faites comme moi. Faites comme moi. Faites comme moi qui trouve ma joie dans l'accomplissement des commandements de Dieu pour moi, parce que je sais que le Père m'aime. Et parce que je sais que ces commandements, ce sont des commandements d'amour. » Et donc, si dans la Bible, nous trouvons tellement d'impératifs, nous trouvons tellement de commandements, ce n'est pas pour nous frustrer. C'est justement pour nous introduire dans cette joie de la proximité que Jésus, comme homme, avait vis-à-vis de son Père, parce qu'il disait toujours les paroles que le Père lui disait de dire, parce qu'il faisait toujours les actes que le Père lui donnait de faire, etc. etc. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Un autre aspect, ça c'est le premier texte que nous trouvons dans l'Évangile. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. C'est sans doute un commentaire plus de l'évangéliste Jean. Et qu'est-ce que ça veut dire « le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains » ? Ben oui, c'est que quand nous lisons la Bible, nous voyons que c'est le Père, Dieu le Père qui décrète la création, mais c'est le Fils qui en est l'artisan. Quand nous voyons ce plan de la rédemption qui se déroule, c'est le Père qui conçoit le plan, mais c'est le Fils qui l'accomplit par son œuvre. Donc, quelque part, l'amour du Père pour le Fils le conduit à finalement lui dire « ben écoute, je t'aime ». Eh bien, c'est à toi de faire. Je résume un petit peu, hein, mais c'est un peu ça. Et Dieu, en fait, il agit de la même manière pour nous. Il nous aime et donc il nous responsabilise. Il nous confie des choses. Pour ça qu'on a des textes sur lesquels peut-être nous passons un peu rapidement, mais vous êtes collaborateur de Dieu. Comment je peux être collaborateur de Dieu ? Dieu a besoin d'un collaborateur ? Ben oui, parce qu'il a remis des choses entre nos mains. Alors peut-être pas tout, ça c'est peut-être l'unicité du Fils, mais il nous fait participer à son œuvre, et ça c'est une façon pour Dieu de démontrer son amour à lui, pour nous, comme il a démontré son amour pour son Fils en remettant tout entre ses mains. Sixième texte, l'amour transparence. Chapitre 5, verset 20, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. » Alors juste une petite note, la NBS dit le Père a le Fils pour ami, parce qu'en fait le verbe utilisé, c'est pas agapao, c'est philéo ici. Mais plusieurs commentateurs de confiance disent qu'en fait les deux verbes sont très souvent synonymes et qu'il ne faut pas trop souvent élaborer là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que philéo, s'il a une nuance, c'est peut-être cette nuance d'amitié, de partage, de connivence intellectuelle, de pensée, d'idées, etc. Et c'est bien ce que l'on voit ici, cette, si j'ose dire, cette complicité entre le Père et le Fils qui fait que le Père montre au Fils tout ce que lui-même fait. Et nous avons quand même, et c'est important de le noter, cette asymétrie. Parce que dans la Trinité, le Père et le Fils sont égaux de nature, mais ils ne sont pas égaux en fonction. Il n'est jamais dit que le Fils a envoyé le Père. Ce n'est pas le Père qui est mort sur la croix, c'est le Fils. Donc, dans la Trinité, il y a des fonctions différentes. Le Père envoie le Fils, et ensuite le Père et le Fils envoient l'Esprit. Et donc, il y a une relation qui n'est pas réciproque. Même si Jésus est Dieu, est pleinement Dieu, eh bien, c'est le Père qui prend l'initiative, c'est le Père qui envoie, c'est le Père qui commande, c'est le Père qui accorde, et c'est le Fils qui répond, qui obéit, c'est le Fils qui accomplit la volonté, c'est le Fils qui reçoit du Père cette autorité. Donc, l'amour est parfaitement réciproque entre les deux dans sa pureté, mais pas dans la façon dont il se manifeste, puisque c'est le Père qui montre au Fils ce qu'il doit faire. Et donc, si je transpose maintenant pour nous, si Dieu nous guide, si Dieu nous montre le chemin, si Dieu nous dirige, si Dieu nous ordonne ceci ou cela, ben c'est une preuve de son amour. Comme c'est une preuve de l'amour du Père pour le Fils quand le Père ordonne quelque chose au Fils. Et vous savez, on a souvent dit que l'opposé de l'amour, c'est quoi? C'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et Dieu n'est pas indifférent par rapport à nous. Et c'est pour cela que nous avons un Dieu qui nous guide, qui nous donne des commandements, qui nous dirige, etc., qui nous montre ce que lui-même fait pour que nous fassions la même chose que lui. C'est pour cela que, par exemple, Éphésiens 5, l'Épître aux Éphésiens, elle est assez proche finalement de ce texte. Éphésiens 5 nous est dit « Soyez imitateurs de Dieu ». Si je montre quelque chose à faire, c'est pour qu'on imite ce que je dois faire. « Soyez imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour ». Ah tiens, comme par hasard. Et donc, comme autrefois le Fils imitait le Père, dans le monde antique, quand quelqu'un était boulanger, il y avait toutes les chances que son fils soit boulanger à sa suite. Et donc, comment on apprenait le travail? Eh bien, il n'y avait pas d'école de boulangerie. Eh bien, tu apprenais sur le tas en voyant comment le père faisait. Eh bien, nous aussi, nous avons à voir comment Dieu fait pour nous et à suivre cet exemple. Et c'est pareil aussi sur le plan purement humain. Combien de fois on dit à nos enfants, fais ceci ou cela, on leur montre ce qui doit être fait. Et Dieu veuille que nous soyons aussi cohérents dans ce que nous montrons, c'est-à-dire que nous fassions aussi ce que nous ordonnons à nos enfants de faire. Ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, vous remarquerez que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même, et le Fils ne comprend pas cela comme une privation de liberté. Parce que parfois, on dit, « Oh, j'ai pas envie que tu me donnes des ordres. Je suis libre. Pourquoi tu me donnes des ordres ?» Pourquoi Dieu donne des ordres au Fils quelque part ou lui montre ce qu'il lui fait? Pourquoi Dieu nous donne des commandements? Eh bien, parce qu'il nous aime. Et le Fils lui-même, relisez l'Évangile selon Jean, relisez la façon dont le Fils parle à ses disciples du fait qu'il accomplit toujours ce que le Père lui dit de faire, et, etc. Dans aucun verset, et ils abondent dans l'Évangile selon Jean, on a l'impression parfois que ça se répète d'ailleurs sur ce sujet, dans aucun verset, on a l'impression que le Fils est frustré ou qu'il ne se sent pas libre. Pas du tout. Et au contraire, le Fils trouve sa pleine liberté en s'inscrivant dans ce que le Père lui demande de faire. Et puis, septième et dernier texte de l'Évangile selon Jean, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » Il y a ce lien dans ce chapitre 17 de Jean entre aimer, connaître et la vie éternelle. Alors, entre le Père et le Fils, il y a cette connaissance réciproque parfaite. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, verset 27. Et Jésus peut dire à ses disciples au chapitre 10, « Moi, je connais le Père, et le Père me connaît. » Comme il y a cette connaissance aussi entre le berger et ses brebis, avec la transitivité que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, vous aurez remarqué qu'ici, pour les introduire dans cet amour que le Père a pour le Fils, qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore. C'est quoi le nom? Le nom, c'est l'excellence de tout ce qu'est Dieu. Et donc, le Fils veut nous faire connaître qui est son Père. Il veut nous le faire connaître de plus en plus. Et donc, plus nous connaîtrons Dieu, plus nous l'aimerons. Plus nous l'aimerons, plus nous aurons envie de le connaître. Et ça, c'est la vie éternelle. C'est ici la vie éternelle, même chapitre, verset 3, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est une connaissance qui n'est pas une connaissance intellectuelle. Et c'est pour cela que j'ai longtemps interrogé pourquoi il y a marqué « Et l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. » On pourrait dire déjà, si l'amour dont Dieu aime le Père, aime le Fils est en moi, ben c'est fini, c'est la plénitude de tout. Non, que moi je sois en eux. Parce que cet amour, il nous est connu via une personne. Donc quelque part, ce que je vous dis ce matin, en décortiquant un peu quelques versets, c'est je vous propose une connaissance, mais si nous ne la rattachons pas à une relation personnelle avec Jésus-Christ, moi en eux, eh bien quelque part, ce sera une belle réflexion intellectuelle sur l'amour, mais ça ne nous amènera pas à grand-chose. Et donc il faut que cette réflexion soit prolongée par cette relation d'amour qui est l'essence de la vie éternelle. Donc là, nous avons vu, premier verset incroyable, « Comme le Père m'a aimé, vous avez été aimé. » Et deuxième verset incroyable, « Moi aussi, je vous ai aimé. » Et alors, trois textes, on n'en va pas en prendre sept, on va prendre trois textes rapidement sur l'amour de Dieu pour nous. Le premier, c'est l'amour à son comble. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ça, c'est le... Il y en aurait beaucoup plus que trois textes. Mais j'ai pris ces trois-là. Pourquoi ? Parce que le premier, il nous montre que l'amour de Jésus pour nous, « Je vous ai aimé », eh bien, il passe avant tout à la croix. Si un jour, dans notre vie, on doute de l'amour de Jésus pour nous, revenons à la croix. Revenons à la croix. Revenons à ce texte de Jean 13, verset 1, qui nous dit qu'il a mis le comble à son amour pour nous, jusqu'à l'extrême. Et alors après, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne une illustration. Parce que nous, c'est compliqué de comprendre jusqu'à quel point Jésus nous aime. Donc, il prend un texte qui, peut-être, ne nous parle pas tellement aujourd'hui. C'est le lavage des pieds. Mais dans la conception de l'époque, c'était incroyable aussi que quelqu'un qui était reconnu comme le chef, dans cet Orient, hein, où il y avait cette hiérarchie très respectée, que quelqu'un qui était le chef, le maître, se mette à genoux pour laver les pieds tout sales du chemin. C'était incroyable. C'était pas concevable. Et d'ailleurs, Pierre dit, attends, ça va pas, ça. Mais ce n'était qu'une petite illustration temporaire pour permettre aux disciples de cheminer dans leur tête pour comprendre qu'est-ce que c'était Emma jusqu'à l'extrême. Parce que Emma jusqu'à l'extrême, c'était par rapport à l'heure venue. Et l'heure venue, ce n'était pas l'heure du lavage des pieds, c'était l'heure de la croix, d'abord et avant tout. Mais il était besoin pour Jésus de prendre cette petite illustration pour dire, eh ben voilà, voilà comment je vous aime. J'accepte de me faire serviteur pour vous. Et il s'est accepté, il a accepté d'aller jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Étant devenu homme, il s'est anéanti et il s'est abaissé ensuite pour devenir esclave jusqu'à la croix. Deuxième texte sur l'amour de Dieu pour nous, de Jésus pour nous, c'est l'amour dans les épreuves. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée ? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour dans les épreuves. Quand est-ce que Jésus, je le répète, dit « Tu m'as aimé comme tu les as aimés » ? Eh bien, ou « Comme tu m'as aimé, tu les as aimés ». Quand est-ce qu'il parle de tout cela ? Il parle de tout cela juste avant les souffrances qu'il va connaître. Et ces souffrances, si grandes soient-elles, n'entament rien la certitude de Jésus dans l'amour du Père pour lui. Et ce texte si fort de la fin de Romains 8 nous dit qu'il devra en être de même pour nous. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas au creux d'une grosse épreuve. Et que certains dans le creux d'une grosse épreuve peuvent se dire « Mais où est l'amour de Dieu pour moi ?» Alors, quelle réponse avons-nous à leur donner ? Ben, rien d'autre que ce que la Bible nous donne. Parce que notre bouche est bien souvent fermée, enfin la mienne. Et donc on peut rappeler Jean 17. la certitude de l'amour du Père pour le Fils, que le Fils rappelle à ce moment-là. On peut rappeler cette fin de Romains 8. Alors c'est vrai qu'il y a des souffrances, c'est vrai qu'il y a des souffrances générales du monde déchu, dont Paul parle dans ce chapitre au verset 18 et suivant, hein, la création qui soupire. Il y a des souffrances liées à la persécution, il en est question ici. Il y a des souffrances liées à des personnes, créatures, etc. Il y a des souffrances liées peut-être à des influences spirituelles. Mais je suis aimé même si je suis persécuté. Je suis aimé même si je participe aux souffrances de ce monde déchu. Je suis aimé même s'il y a des gens qui ne sont pas gentils avec moi. Je suis aimé par Dieu dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas. C'est ce que ce texte si fort nous invite à nous remémorer à tout moment. Et puis un troisième texte, qui est Apocalypse 3, verset 19, nous dit « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » Aimer, ça signifie ne pas être indifférent aux problèmes ou de l'autre. Et c'est parce que Jésus nous aime qu'il nous corrige et qu'il nous reprend. Il y a quelques années, un papa avait dû corriger son petit garçon qui était pas sage. Et pour être bien sûr qu'il comprenait à quoi c'était lié, il disait tu sais pourquoi je t'ai corrigé ? Et l'autre qui répond « Oui, papa, parce que tu m'aimes. » Voilà, c'est cela la façon d'agir de Dieu. Et je rappelle que l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Et c'est justement parce que le Seigneur n'est pas indifférent à nous qu'il nous reprend et qu'il corrige. Et cela nous montre qu'il nous aime. Alors, en conclusion, j'aimerais que nous retenions ces deux diamants que nous trouvons dans l'Écriture. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. J'avais intitulé ce message « Se savoir aimer, vraiment. » Et comment nous pouvons savoir que nous sommes aimés vraiment par Dieu ? Eh bien parce qu'il nous le dit. Et ce sont ces deux versets-là qu'il faut que nous conservions très fort dans notre cœur, encore, encore et toujours. Et nous avons besoin de nous le répéter et de nous le répéter. Mais, et je conclurai par cela, c'est aussi à nous d'aimer. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il y a encore un autre comme. Le premier, quelque part, il nous est confortable. Comme le Père aime le Fils, nous nous sommes aimés. Ça va. On le reçoit et on le savoure. Mais comme le disait C.S. Lewis dans un très bon livre qui s'appelle « Les quatre amours », eh bien, l'amour, de notre point de vue humain, nous avons besoin de le recevoir avant aussi de le donner. Et c'est ce que nous avons dans ce texte, où nous avons ce « comme » qui nous implique, qui est ô combien impliquant pour nous. Et de nous savoir aimer par le Père et le Fils, eh bien, cela nous rend libres pour nous aimer les uns les autres. Et c'est d'autant plus important que Jésus rajoute un autre verset. Pardon. Il rajoute un autre verset, bon, je vais vous le lire. J'arrête. Il nous dit... C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Matin, au petit déjeuner, on parlait de ce message. Anne me disait, tu sais, c'est un peu théorique ton truc. Vous d'en jugez. Mais c'est vrai que l'amour de Dieu, ça peut paraître théorique. Alors, j'espère que pour nous, les croyants, et c'est un message qui s'adressait aux croyants, l'amour de Dieu n'est pas théorique. J'espère que ces textes-là, même s'ils sont difficiles et que nous n'y entrons que très partiellement, nous persuadent vraiment que nous sommes aimés. Que nous sommes aimés comme Dieu le Père aime Dieu le Fils, que nous sommes aimés par le Père et nous sommes aimés par le Fils. Mais autour de nous, on va dire, les gens qui nous entourent, qu'est-ce qu'ils savent de l'amour de Dieu ? Alors, on peut les conduire à lire Jean 3, 35, Jean 5, verset 20, etc., et décortiquer avec eux. Je ne suis pas certain qu'on ait forcément un succès immédiat là-dessus. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et c'est le challenge terrible, je dis terrible parce que je pense que on y a si souvent manqué. Moi, j'y manque aussi, ne serait-ce que l'amour les uns pour les autres. Ça commence aussi dans la famille. Eh bien, c'est ce challenge que Jésus nous donne, qui est de montrer l'amour de Dieu, l'amour que nous ressentons de Dieu, que nous savons être celui de Dieu pour nous, le montrer en nous aimant les uns les autres. Et vous aurez remarqué que c'est d'abord cet amour dans l'Église. Ah oui, dans la communauté des chrétiens. On accusait Jean parfois de dire « Mais c'est quoi ce sectaire qui veut qu'on aime que les gens qui sont aussi chrétiens ?» Mais non, c'est que c'est d'abord le terrain de jeu. Parce que quelque part, aimer le monde, bah oui, aimer ce voisin là avec qui que j'ai juste vu sortir sa voiture un dimanche sur cinq quand j'étais au culte, pas de problème, hein, pas de souci. Par contre, ben, ceux avec qui on vit, ceux avec qui on fait Église dimanche après dimanche, c'est parfois plus difficile. Mais comment vraiment pourrons-nous être crédibles dans notre proclamation que Dieu est amour, que le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'amour? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix, c'est l'amour des uns pour les autres. Et c'est comme ça que le monde va pouvoir connaître, parce que par notre amour mutuel. Et donc, en particulier par le fait que nous sommes unis dans l'amour. Nous sommes unis, vous voyez, la famille de Dieu. Ok, on le chante. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En particulier dans une période d'élection. Hein, réfléchissons-y. Donc, je me sais vraiment aimé par le Père et le Fils. Je me sais vraiment aimé par le Père et le Fils. Et ça me donne du repos. Ça me donne de la sécurité. Ça me donne de la joie. Et grâce à cela, eh bien, alimenté par cet amour, c'est de ton amour même que mon amour vivra. Eh bien, nous pourrons, j'espère, en tout cas c'est ma prière personnelle, que je puisse aimer davantage les uns les autres.